Tout d'abord, sur la question de la période de légitimité de la Commission Vérité-Réconciliation, c'est une très bonne chose qu'elle puisse s'arrêter en 2008. Il est toujours indélicat de pouvoir mener des investigations sur des événements actuels. On n'est plus alors dans un processus vérité-réconciliation. On est trop sur l'événement, on est trop sur l'actualité que pour être dans une démarche de réconciliation. Donc il faut laisser un peu le temps derrière soi que pour pouvoir avoir un regard apaisé qui permette d'avoir un regard qui permette la réconciliation. Donc pour moi, c'est une bonne chose que l'actuel sévère ne traite pas les événements post-2008. Il faudra du temps pour que une nouvelle sévère ou un nouvel outil, que la justice ou une organisation qui travaille le pardon ou d'autres choses, que sais-je, puisse travailler cette question-là. Il faut laisser du temps au temps. On est dans un regard sur le passé avec une sévère. On n'est pas dans une gestion de l'actualité.
Oui. Est-ce que l'Église catholique ne joue pas trouble jeu, puisque l'on se rappelle qu'en 2015, dans la foulée de la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza, eh bien l'Église avait retiré ses représentants dans le processus électoral, et c'est cette même Église qui est chargée aujourd'hui d'un processus de paix.
Alors, il faut savoir que le processus de réconciliation, la loi sur la sévère, a été votée par les instances burundaises avant les événements qu'on qualifiera comme on veut. Donc c'est une loi qui est antérieure. C'est d'ailleurs le résultat des accords d'Arusha. C'était une des dernières étapes essentielles des accords d'Arusha. Donc processus antérieur, l'Église s'est engagée parce qu'elle avait une forme de réputation et de légitimité que pour pouvoir par parcourir l'ensemble du pays, elle avait suffisamment de crédibilité. En tout cas, l'ensemble des parties prenantes à la sévère ont reconnu le rôle de l'Église au sein de celle-ci. Donc, moi, je ne soupçonnerais pas la légitimité de l'Église à cet égard. La nature de la sévère n'est pas la nature d'une commission électorale ou d'une commission de surveillance des élections. On est dans une autre configuration, donc je ne vois pas actuellement en quoi l'Église joue en jeu trouble. Elle se lie à son mandat. Maintenant, en tant qu'observateur, il faut se poser la question de quelle va être la possibilité pour que cette sévère puisse fonctionner dans des conditions suffisamment optimales. Et ça, ce sera les 11 membres de la sévère qui vont juger de l'opportunité qu'elle puisse fonctionner. Maintenant, effectivement, la semaine dernière, la sévère a été lancée. Peut-être que c'est là en signe pour dire que la question de la mémoire, la question de la vérité, la question de la justice, la question du pardon ne seront pas oubliées. C'est peut-être une lumière d'espoir de cet ordre-là. Alors, l'Église ne joue pas, pour moi, un rôle trouble. Elle s'est retirée du processus électoral en expliquant pourquoi. Elle a maintes reprises dans les messages pastoraux plaidé pour un règlement pacifique du conflit, une solution politique et en demandant au président de faire preuve d'audace et de retenue et en demandant à l'ensemble des acteurs politiques de se mettre autour de la table.
Oui, on se rappelle qu'en 2015, justement, l'Église catholique était contre la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza. Pourquoi ne s'est-elle pas prononcée sur ce mandat, vu que les dés sont déjà pipés, comme on peut dire?
Je ne sais pas si les dés sont pipés concernant la sévère. La sévère, quand elle a été mise en place, la constitution des 11 membres qui la constituent faisait l'objet, et je pense fait toujours l'objet, on verra bien comment ça va évoluer, fait l'objet d'un consensus. Alors maintenant, peut-être que les temps sont en train d'évoluer, mais on ne doit pas délégitimer ce qui a été légitimé à un moment donné par des instances il y a un an et demi, presque 2 années.
Oui. Et est-ce que l'Église catholique a-t-elle la légitimité pour se prononcer sur le mandat actuel jugé controversé de Pierre Nkurunziza?
Alors, elle a une légitimité pastorale à se saisir de ce qu'on appelle les signes des temps et à et voir évoluer la société, qu'elle soit belge, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit allemande, qu'elle soit burundaise, et au nom du message de l'enseignement social de l'Église, poser des questions et se prononcer sur une série de sujets qui ne sont pas des sujets intramuros, intra-ecclésial, mais qui sont des sujets qui touchent l'ensemble du peuple de Dieu. Et l'ensemble du peuple de Dieu, c'est l'ensemble de la société burundaise, quelque part. Donc oui, elle a légitimité à s'exprimer dans l'espace public comme en autre acteur, et elle l'a fait, elle le fait avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de justesse, je trouve. Je ne suis pas un défenseur univoque de l'Église, mais en l'occurrence, effectivement, l'Église parvient à prendre de la hauteur, de la distance par rapport aux questions classiques qui tiraillent les Burundais, et c'est uni, malgré des différences, bien entendu, c'est uni qu'elle arrive à un dialogue national, c'est uni qu'elle arrive à s'exprimer comme conférence épiscopale, et c'est pour moi un assez bon signe de paix. Alors, est-ce que ça provoque la paix dans le pays? Non, évidemment. Et ça n'enlève rien au fait que, vraisemblablement, une partie des membres de l'Église a un regard plutôt positif sur certaines choses, plutôt négatif d'autres sur certains éléments. Tout le monde n'a pas le même regard sur la CNTB, tout le monde n'a pas le même regard sur l'évolution des événements, mais c'est normal. Alors, poser un regard est une chose, après avoir un positionnement, il est clair.
Et pourra-t-elle, je veux parler de l'Église catholique, convaincre le président Pierre Nkurunziza d'ouvrir des négociations inclusives avec tous les acteurs de la crise burundaise?
Alors, elle est, l'Église catholique burundaise, un élément parmi d'autres du dialogue inclusif. C'est clair qu'elle n'est pas seule, que la communauté internationale est elle-même partagée, mais pousse un dialogue, que les acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, doivent aussi amener. L'Église a un poids moral. Elle peut annoncer, elle peut dénoncer. Elle ne peut pas, elle seule, remplacer le jeu politique. Ça ne serait pas sain. Elle doit garder une distance morale par rapport à ça. Voilà, les négociations d'Arusha qui n'ont finalement pas tout à fait eu lieu pour l'instant, je pense que l'Église a pu s'y préparer, s'y préparera et apportera sa contribution avec, comme mot d'ordre, inclusif, non-violence, donc action pacifique, solution politique. C'est les maîtres mots de l'Église catholique du Burundi. Je ne m'exprime pas en son nom, je suis simplement un observateur. Hein. Ne me demandez pas de prendre la parole au nom de l'épiscopat burundais. Je vois comment elle fonctionne. Elle fonctionne avec un travail très, très, très serein autour des questions de démocratie et de citoyenneté, de bonne gouvernance, de respect des droits humains. La sérénité est parfois mise à épreuve.
Et est-ce qu'on peut,
ça continue.
Et est-ce qu'on peut en déduire que l'Église catholique a pris acte du troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui fait polémique?
Ça, je ne peux pas vous dire quelle est la position officielle de l'Église catholique par rapport à acter ou non le troisième mandat. Mais maintenant, si je m'exprime à titre d'observateur, il y a de facto un troisième mandat qui s'exerce. Alors qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, la communauté internationale, ou en tout cas une partie de celle-ci, a posé des questions sur la légitimité du troisième mandat, mais ça va bientôt faire un an. Hein.
Et que répondez-vous à ceux qui estiment que l'Église est en accointance avec le régime burundais?
Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande accointance entre le régime burundais et l'Église. Si je lis les messages pastoraux, ils questionnent la manière dont le régime burundais peut fonctionner, comme il a questionné depuis longtemps la manière dont, dans différents pays du monde, les gouvernements agissent et se prononcent. L'épiscopat congolais, à travers la CENCO, a elle-même aussi des paroles et des actes à ce sujet-là.
Et quel rôle...
On peut toujours en demander plus à une église et on peut toujours penser qu'il devrait en faire moins. Je trouve qu'actuellement, l'église burundaise a une attitude qui est juste en essayant de promouvoir à différents moments, à différents endroits, des actions qui favorisent la paix, qui favorisent le dialogue, qui favorisent l'inclusif et qui essaie de sortir du jeu plutôt que de cliver le jeu.
Et avez-vous une idée sur le rôle et l'influence qu'ont les autres courants religieux au Burundi?
Non, ça je vais vous donner une réponse qui sera beaucoup trop généraliste. Je pense qu'il y a des réseaux, des autres confessions religieuses traditionnelles, le monde musulman, une partie du monde protestant qui effectivement parle et essaye que la non-violence soit quelque chose d'actif dans le pays.
Et donc ils n'ont pas, si je vous comprends bien, le même poids, la même influence que l'Église catholique, hein, c'est ça?
Je n'ai pas l'impression qu'ils aient la même influence ou le même poids que l'Église catholique, simplement parce que l'Église catholique, à mon avis, représente encore 60% du potentiel au sein du Burundi. Donc, effectivement, moi, je serais plutôt enclin à dire que l'Église catholique a une force traditionnelle, historique, mais aussi une force d'implantation dans l'ensemble du pays. Il a aussi une présence sociale qui est forte depuis longtemps, pas seulement une présence pastorale. Et l'Église catholique s'est exprimée.